Donc je suis en compagnie de Pierre Dubois dans le cadre du festival de l'imaginaire de Vendôme. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc vous êtes ici à double titre, déjà pour vos différents ouvrages et puis en plus pour ce soir pour votre prestation de conte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé au monde imaginaire et aux elfes, etc., puisque c'est une passion de toute votre vie?
Oui, en fait, ça remonte à l'enfance. D'une façon, je crois que tout se joue à l'enfance. Hein, tout est les bouquins que tu vas aimer plus tard, les films que tu vas aimer plus tard. Tu vas être un jour dans ton enfance, touché par un livre qui va te bouleverser, par quelque chose. Et moi, mon approche des faits, ou plutôt l'approche des faits vis-à-vis de moi et de tout ce petit monde, vient de peut-être d'une solitude, d'un enfant qui s'ennuie dans son arrière-cuisine, qu'on appelle une buanderie. C'est quand même joli, hein, un mot, une buanderie, avec cette buée où on faisait la lessive et tout, et où il y avait le tic-tac de l'horloge, où on faisait des économies d'énergie. Enfin, là, c'était des... Et on ouvrait le dessus du poêle, tu sais, on n'allumait pas tout de suite. Et donc, enfant, dans cette arrière-cuisine, dans cette buanderie, j'entendais ce tic-tac, j'entendais la bouilloire qui chantait, et il y avait cette lumière particulière qui devait certainement ressembler au premier feu avec les gens d'autour, quoi. Ça devait ressembler un peu à une caverne, un peu, c'est. Et j'entendais la pluie qui tombait sur les vitres, et à chaque souffle du vent, le feu s'animait et lançait au plafond une espèce de cercle, comme une plaque de lanterne magique, où je voyais scintiller et jouer des ombres chinoises, où je voyais des dragons, où je voyais des nains en train de forger des épées, et l'imaginaire a fait le reste. Et Bachelard dit une phrase, moi, qui m'a fasciné, les petits êtres fuyants et cachés oublient de fuir lorsqu'on les appelle par leur vrai nom. Donc ça, je l'ai lu bien après, évidemment, mais je crois que intuitivement, enfant, j'ai senti ces présences, et le fait de les appeler par leur vrai nom, c'était une manière de pactiser avec eux. En plus, je suis né dans les Ardennes, donc dans une forêt légendaire. C'est pour ça qu'ensuite, après, je suis parti dans la forêt de Brocéliande, je suis passé d'une forêt à l'autre, je m'appelle Dubois et j'ai la maladie de forestier. Donc tu vois, quand même, je crois que l'esprit des lieux est très important. Quand tu nais dans un endroit, cet endroit reste avec toi. Et quand on a déménagé, j'ai perdu cette forêt, tu vois, et mes parents sont partis s'installer dans le nord, donc je me suis retrouvé dans un jardin où j'ai reconstitué ma forêt, avec toutes les légendes de cette forêt, les quatre fils Aymon, avec Robin des Bois, avec ses fées, avec ses dragons, avec ses chevaliers errants, et ça m'a poursuivi à tel point que j'ai eu besoin de les raconter. Je manquais aussi d'histoire. Mes parents ne me racontaient pas beaucoup d'histoires, donc il m'en manquait, j'avais besoin d'en raconter. Aussi, j'étais une époque où lire, c'était pas très bien. Maintenant, la lecture, on essaie même que les enfants lisent, alors qu'à mon époque, c'était lire, attends qu'on est en train de lire, c'est du bourrage de crâne, tu vas t'abîmer les yeux, je vais te donner du vrai travail. Le livre avait quelque chose de... dans certains milieux, tout au moins, c'était pas très bien. Donc, comme les enfants font toujours l'inverse de ce qu'on leur dit, du coup, pour moi, le livre est devenu quelque chose de magique. Tu vois, je me disais que dans ces livres, si on les interdisait, c'est que tout était là, quoi, tu vois. Donc, je regardais les livres, parce que je savais pas encore lire, les livres d'histoire et les livres de lecture de ma grande sœur, et je rêvais sur Bayard. Je savais pas que c'était Bayard, défendant le pont du Garigliano, tu sais, à cheval avec son épée. Et pour moi, c'était pas du tout Bayard, c'était Perceval, c'était Gauvin, c'était Lancelot, et je m'inventais toute une petite mythologie, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'école, j'ai été extrêmement déçu par ce qu'on m'a appris, parce que ça correspondait pas à mon rêve. Et à partir de là, j'ai pris les chemins buissonniers, les chemins d'Elfiri, et j'en suis jamais sorti, tu vois.
Au niveau des livres, donc devant vous, vous avez les contes du petit peuple ou sinon les contes de féerie. Ces mondes-là, vous les avez séparés, c'est parce que... Pourquoi ? Ou pourquoi pas faire tome 1 sur le monde fantastique, tome 2 sur le monde fantastique ?
Bien, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, à faire du collectage, à chercher toutes ces légendes, à chercher toutes ces histoires dans le but d'en faire un gros grimoire, parce que donc j'étais très jeune et j'étais d'une naïveté, enfin tu sais, je voulais en fait faire un livre qui... mais vraiment le grimoire, tu vois, le livre en cuir, poussiéreux, il fallait qu'il soit poussiéreux, avec des pentacles, des gravures, des signets partout, tu vois, à la limite, il aurait fallu vendre même le lutrin et le hibou avec, tu vois, et même le grenier pour mettre dedans, tu vois. Donc quand j'ai commencé à écrire... ça, c'était un peu en vrac, ça me venait comme ça, comme un livre magique. Et quand je suis allé le présenter plus tard, pour la première fois, à Jean-Jacques Pauvert, voyant le bouquin, qui était en plus en écrit sur du parchemin, à la plume, attention, oui, il m'a dit, mais c'est très bien, mais enfin, c'est inéditable, quoi, il faut quand même... Et il m'avait dit quelque chose de sympa quand même, il m'avait dit, on a l'impression de rentrer dans un jardin extraordinaire, avec un tas d'orties, des chardons, on voit pointer des fleurs, on voit pointer des trucs, mais on va se piquer, on va se perdre, il faut des allées, il faut des sentiers, quand vous aurez fait des sentiers, etc., revenez me voir. Et le temps a passé et j'ai commencé à faire des sentiers, c'est-à-dire je me suis rendu compte en plus que tout ce monde était quand même assez hiérarchisé, était que les lutins, le monde des lutins, le monde du petit peuple, soit c'était le monde de la terre, les elfes c'était les mondes aériens comme les sylphes, que les fées c'était plus l'eau. Donc je me suis rendu compte petit à petit qu'il fallait suivre effectivement des sentiers pour ne serait-ce que pour les comprendre, tous ces personnages. Et à partir de là, on s'est dit, on va faire les lutins parce que les lutins c'est plus la terre, on va faire les fées parce que c'est le destin, c'est plus féminin, c'est l'eau, et ensuite les elfes parce que c'est les plus insaisissables d'abord, et c'est l'air. Donc il fallait vraiment les classer en plusieurs bouquins. Sauf que quand je suis allé voir les éditeurs avec ces bouquins, ça fait vraiment bien longtemps, ils m'ont un peu rionné, quoi, parce que Pauvert avait arrêté, n'était plus éditeur, enfin, il faisait que les... Il rééditait Saad à l'époque, donc il n'était plus l'éditeur susceptible de s'intéresser à ce que je faisais, mais autant maintenant qu'il y a des éditeurs qui sortent à l'appel, à foison des féeries, à l'époque, on m'a franchement rionné. Quel est l'intérêt de faire des bouquins sur ce monde des fées, et donc j'ai dû attendre longtemps avant que Webeck décide de m'éditer, et après on a attendu encore plus longtemps pour trouver un illustrateur, parce que autant maintenant il y en a des centaines et très talentueux, autant à l'époque la féerie, oui pour l'Angleterre, oui pour les Américains, mais chez nous ça n'intéressait personne. Donc j'ai perdu encore plus de temps, et là, quand on a enfin trouvé un illustrateur, Sabatier, Roland Sabatier. Et pourquoi Roland Sabatier? Parce qu'en fait, il dessinait des champignons, il dessinait des plantes, il dessinait des oiseaux. Donc lui était intéressé parce qu'à force d'avoir le nez dans les plantes, dans les oiseaux et dans les champignons, à force de s'approcher très près de la faune et de la flore, il y voyait des choses qu'on n'est pas censé voir la première fois au premier regard. Donc il s'est intéressé à ce petit monde-là qu'il a traduit en dessin. Donc, et là on a donc vraiment décidé de prendre modèle, tu sais, sur les bouquins très sérieux sur les plantes, sur les champignons, sur la faune et la flore. Si tu vas cueillir un champignon, t'as intérêt à emmener ton bouquin sous le bras et consulter avant de le cueillir pour voir si tu manges une girole ou par contre si tu manges un champignon vénéneux. Et ben là c'est pareil, on s'est dit on va faire une fiche signalétique pour si on se promène dans les bois ou dans la montagne, on peut sortir avec l'encyclopédie, avec cette fiche signalétique. Par exemple, si tu vois un bonnet rouge, ça peut être un kabouters, mais ça peut être aussi un sauté ou un massauté que les dames aperçoivent toujours trop tard, ou un dunter, c'est-à-dire un red cap. Alors là, dans les Highlands, qui lui est extrêmement dangereux et tu risques ta peau parce que la couleur rouge de son bonnet, c'est le sang des victimes. Il trempe son bonnet dans le sang des victimes pour avoir un bel écarlate. Donc tu vois, d'où le côté très didactique, très sérieux de ces encyclopédies. C'est attention, vous entrez dans un monde magique, avec ses ténèbres, avec ses côtés obscurs, avec bien sûr le côté féerique, enchanté et tout, mais qui a son côté, sa part de danger, quoi, tu vois.
Et la différence entre écrire un livre et raconter des histoires comme vous allez le faire ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui va de pair pour vous ou...
Oui, ça va de pair. C'est tout à fait différent, mais ça va de pair. Disons que si ce que je raconte, mes passions, cette espèce de défense de ces mondes-là, cette espèce de message que j'ai envie de porter sur la nature enchantée, sur la nature fantastique, merveilleuse, sur le côté sacralisé de la nature, je le porte, si tu veux, et je le diffuse, soit en racontant aux adultes, en racontant aux enfants, en faisant des conférences différentes, mais en faisant de la... Enfin, j'ai fait donc 35 ans de télé et de la radio. En écrivant, tu vois, j'essaye d'utiliser presque toutes les techniques possibles pour faire passer ce message. Et pour moi, tout est important. C'est-à-dire, chaque fois, je prends autant de plaisir à aller dans une maternelle et raconter quelques histoires de lutins espiègles à des gamins de 5-6 ans, quoi, tu vois, ou même quelquefois ça m'arrive d'aller faire un festival, par exemple, à Aix-en-Provence, dont s'occupe la fille de Jean Giono, et là tu as en face de toi des Michel Tournier, tu as des grands écrivains, des grandes pointures, le Gilles Lapouge et tout, mais tu dis les mêmes choses, quoi, avec la même sincérité, avec le même par contre quand tu écris, ça c'est autre chose parce que ça se passe entre les faits et toi. Tu es tout seul tu crois l'être dans ton bureau. Et je sais par exemple que Stevenson, tu vois, lorsqu'il n'avait pas d'inspiration, il donnait quelques petits cadeaux à ses brownies. Tu vois, il mettait un petit peu de brin de tabac, une petite goutte de whisky sur sa table de travail. Et le lendemain matin, quand il descendait, le travail était pratiquement fait, tu vois. Donc c'est ce que j'espère aussi, c'est qu'avec les faits des lutins, d'avoir cette espèce de communion qu'il ne faut pas briser. C'est pour ça que j'écris à la main, Tu vois, ça peut sembler bizarre, mais j'écris à la main. Comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vois, il n'y a pas d'outil à part le stylo la feuille de papier. Ce qui fait enrager d'ailleurs bien des éditeurs. Et c'est quand même pas possible à notre époque de m'envoyer un manuscrit. Je leur dis, si c'est un manuscrit, des manuscrits. Donc, mais tu te rends compte, il faut payer une secrétaire pour retaper et après le passer dans le. Ah ben, je dis, ben oui, mais c'est comme ça, les faits l'exigent. Donc, là, par contre, le travail d'écriture est plus secret, quoi, tu vois, et plus introspectif, tu vois, c'est plus long aussi, tu vois, autant quand tu racontes, tu as tout de suite la réaction. Donc tu peux jouer avec le public, tu peux t'amuser, tu peux retrouver l'esprit du conteur. Tu sais, les conteurs, ce que je reproche justement souvent à des spectacles de conteurs qui racontent beaucoup mieux que moi, parce que moi je ne raconte pas bien, je raconte pas bien, non, les autres comptent, moi je raconte, tu vois, et je ne compte pas bien. Le vrai conteur, c'est un spectacle, il amène les choses, tu vois, il prépare, il dit les mêmes choses, il connaît son texte par cœur, et il le dit, et de certaines manières, c'est un comédien, tu vois, et il est sur scène, ça se passe dans un théâtre. Moi, je préfère raconter comme au coin du feu. Maintenant, ça n'existe plus, les coins de feu, mais comme les griots racontaient aussi au coin d'une place, tu vois, et je transpose la place de marché ou tout l'endroit où je suis. Mais justement, j'évite en général les micros, j'évite d'être sur scène, je vais plutôt vers les gens. Tu vois, et c'est comme j'ai l'impression devaient le faire les conteurs le soir quand ils racontaient des histoires. S'il y avait beaucoup de filles, tu vois, il était un peu plus égrillard, il racontait des choses un peu plus gaillardes, il les faisait rougir ou pouffer ou leur faisait peur. S'il y avait des enfants, par contre, il s'arrangeait pour raconter des histoires à double sens pour ne pas les choquer. Tu vois, il s'adaptait. Et ça, j'aime bien ça, quoi, tu vois. J'aime bien ne pas savoir aussi ce que je vais raconter avant de raconter. J'ai une vague trame dans la tête, mais ça dépend aussi de l'écho que je reçois. Tu vois.
Et plutôt des légendes ou plutôt des choses personnelles ?
Non, je raconte plus des légendes. Oui. Je raconte des légendes. Il m'arrive de temps en temps de déborder et de raconter des choses personnelles ou des choses qui sont arrivées à des copains et qui m'ont fait rire. Notamment à la Noël, très souvent quand on me demande un conte de Noël, je raconte une histoire épouvantable, d'une tristesse infinie qui est arrivée à un copain, que je ne vais pas le raconter ici, mais qui n'a rien d'un conte de Noël, quoi, si tu veux, mais c'est tellement. Ben, je ne vais pas te raconter, mais si tu veux, c'est un gars qui a voulu faire un cadeau à son enfant, à son grand gamin. Et ça se passe mal, ça se passe pas du tout comme. Mais comme ça se situe à la Noël, c'est une sorte de cadeau qui tourne mal et tout, ça m'a fait hurler de rire quand j'ai. C'est pas gentil du tout. Mais j'aime bien raconter cette histoire-là parce qu'on s'attend à ce que je parle de fées, que je parle de choses de Noël. Et puis boum, je raconte l'histoire d'un gamin qui a à son âge, ce grand dadé n'a toujours pas couché avec une fille et le père veut absolument lui payer une fille. Enfin, soit c'est le.
Donc pour ce soir, surprise.
Oui, je pense, oui, je le. Ça dépend, je sais pas le qui sera là. Non, je crois qu'elle est très belle.
Dit, oui.
Oui, je crois qu'elle est très belle. On m'a montré l'enseigne, et l'enseigne est superbe. Donc je t'avouerai par contre que là. Je ne sais pas s'il y aura des collègues, des écrivains, des auteurs qui viendront. Là, c'est plus gênant parce que quand tu racontes à des un peu des collègues, Il ne découvre pas ce que les zones découvrent, donc c'est il y a moins de réactions. Tu vois, je ne vais pas leur apprendre, je ne vais pas apprendre à Khazar, etc., ce que c'est qu'une fée, lui qui en dessine, ou un dragon, ni à Jean-Michel, quoi, tu vois, qui aussi a fait une couverture superbe, enfin une affiche superbe avec sa sorcière. Tu vois, mais donc tu veux, là c'est je sais pas, je vais voir s'ils sont là, ce sera plus peut-être moins spontané, quoi. Tandis que là, si je vois plein d'enfants, si je vois des adultes encore enfants, tu vois, là ça va se faire tout seul, quoi.
Pour vous retrouver dans les semaines à venir, est-ce que vous allez donner d'autres comptes?
Non, je m'en retourne. C'est ma dernière sortie là, cette fois-ci, et je suis fort content de l'avoir fait ici, parce que j'ai trouvé l'accueil, la région, le coin, vraiment finir au pied d'un château avec une grotte où il y a un dragon pas loin, et la Loire avec ses ondines. J'ai une petite fille aussi qui est passée tout à l'heure, qui s'appelait Mélisande, tu vois, là c'est trop, quoi, tu vois. Donc je m'en vais retourner chez moi et me remettre au travail. Je suis en train d'écrire la suite de mes contes de crime. J'avais fait un pastiche, pas vraiment un pastiche, j'aime pas dire ça, disons, je m'étais amusé à reprendre les contes classiques, Cendrillon, tous ces personnages, Blanche-Neige, pour en faire des histoires à la fois policières et fantastiques. Et là, donc, je fais le second volume qui va s'appeler là les Nursery Crimes. Tu vois, où là, dans le premier, Peter Pan, je révélais la véritable identité de Jack l'Éventreur, c'est-à-dire Peter Pan. Et là, je viens d'en écrire un, enfin, que je dois terminer, justement, que je dois peaufiner, là, qui est sur Sherlock Holmes, très fatigué, très vieilli, et qui se retrouve dans sa petite chaumine du Kent, abandonné de tous. Watson est mort depuis bien longtemps, et en fait, non seulement il s'ennuie, mais toutes les contes, toutes les histoires de fées, de sorcières, auxquelles il n'a jamais voulu croire, parce que c'était un esprit cartésien et de logique, et il n'aimait pas l'émotionnel, et c'était un esprit froid. Là, justement, depuis toutes ces années qu'il a gardé quelque part, bien éloigné, toutes ces sornettes qu'il pensait, arrive au grand galop comme une horde sauvage, et vient l'envahir petit à petit, et vont le déborder, quoi. C'est un petit peu cette histoire que je suis en train d'écrire, et qui m'amuse, parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes, cette espèce de personnage froid, et je cherche la fissure, et j'ai trouvé la fissure, la fêlure de Sherlock Holmes.
Bah, merci beaucoup, et puis je vous souhaite plein de plaisir pour ce soir.
Ben, je te remercie, j'espère. Oui, dans le tu viens?
Bien sûr.
Ah bah alors, donc c'est parfait.
Encore merci.
Mais c'est moi.